Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Simon Dutin, Fred Weiss, Pascal Duprat en pleine forme ce matin. Si vous vous réveillez seulement, vous avez de la chance. Et vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Bon courage si vous êtes sur la route, notamment la route des vacances. On vous accompagne si vous galérez dans les bouchons. On est là pour vous accompagner. Dans 30 minutes, il y aura le dossier des GG. Ligue 1 Plus, c'est donc le nom dévoilé cette semaine de la chaîne de la Ligue. On connaît les prix, les conditions d'abonnement, les principales incarnations de la chaîne. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous abonner pour sauver le foot français? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Et puis à 11h45, vous le savez, ça sera l'heure du débat caché. Les GG qui ne savent rien et qui vont devoir débattre, c'est toujours un grand moment quand elles ne préparent pas les débats. Toujours vraiment passionnant à écouter. Donc restez bien avec nous. Mais d'abord,
Simon prépare les débats.
Je ne savais pas que Fred était là ce matin. En fait.
Simon vient d'arriver, ça fait toujours plaisir de te voir.
Salut Simon. Mais d'abord, chute à l'arrière du peloton.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
La chute, deux hommes qui chutent parce que sur les pavés justement, eh bien Benjamin Thomas qui je pense va prendre le point à glisser.
Oh la chute de Philippe Sen. Une erreur d'un coureur qui était là-bas sur la droite.
Il y en a dans l'herbe.
Ouais.
Le carnage. Que faire, abandonner le maillot vert, c'était pas plaisir. C'était pas mon intention de créer une chute.
Une nouvelle chute dans ce peloton.
Je me demande si c'est pas Brian Coquard qui est encore tombé, le coureur de Cofidis. Coquard ou Renard, un des deux.
Je m'attendais à ce que vous soyez tous là. Je voulais pas vraiment faire le sprint final et nouvelle chute, mais j'ai eu mal un peu partout.
Chute, Maria.
Une énorme chute
à l'arrière du peloton.
Ben Illy.
Ouh là là, et du côté du coéquipier de
João Almeida qui se tient l'épaule. C'est pas bon signe pour Almeida.
Aïe.
Je suis tombé.
Vous l'avez entendu dans cette petite production. Jérôme Pinault de la Dream Team Vélo est avec nous. Salut Jérôme.
Salut les copains. Bonjour à tous.
Jérôme. Comment ça va? Jérôme. Tu sais que Christophe Cessieux t'a mis un petit taquet. Je ne suis pas une balance à 9h. Il disait qu'il avait du mal à tenir. Voilà, comme ça je vous mets une bonne ambiance pour la suite du tour. Tout se passe bien quand même.
T'inquiète pas, il se porte très bien, Christophe. Il est solide sur ses appuis.
Il est une seconde jeunesse.
Il n'est pas prêt de nous déstabiliser avec Gégé Coppel. Je pense qu'on fait un beau duo. On est en train de le fatiguer, l'ancien. Il court, essaye de récupérer un peu plus chaque jour. Il est au lit de bonheur, mais... Ouais. Il toxine. Il est un peu comme Vingegaard. Il optimise la récupération, mais est-ce que ça va suffire? On a un doute quand même.
Ou comme Joko, arrêté au sommet.
Ah, peut-être que c'est le moment. Bon, en tout cas, il va aller jusqu'au bout du tour. On verra comment on va le retrouver, notre Christophe Cessieux. Tu vas être avec nous, Jérôme.
Il est en pleine forme.
Évidemment, toi aussi, tu vas commenter la 8e étape sur RMC aujourd'hui. D'ailleurs, une étape qui devrait se terminer par un sprint massif. Et qui dit sprint massif dit alerte aux chutes aujourd'hui encore. Il y en a eu depuis le début de ce Tour de France, des chutes spectaculaires. L'une d'entre elles a notamment obligé Jasper Philippe Sen, alors maillot vert à l'époque, a abandonné. Les coureurs sont pointés du doigt. Ils vont trop vite, ils sont trop nerveux, ils ont des comportements dangereux. Certains coureurs, on l'entendra dans un instant, estiment que c'est l'organisation qui ne fait rien pour les protéger et qui même met en avant ces chutes pour le sensationnalisme. Alors, faut-il incriminer les coureurs? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Simon Dutin.
Incriminé, comme tu y vas, François. Mais allez, oui, quand même.
Fred a Jérôme dit non. Pinault.
Alors, c'est oui, non. Si Fred a dit non, c'est oui.
Jérôme Pinault.
Ah oui, un peu, ouais.
Oui. Ouais. Avant d'en débattre, les amis, on va accueillir Kevin Morand, un de nos envoyés spéciaux également sur le Tour de France. Salut Kevin.
Oh là là,
François,
Kevin.
Salut les GG. Salut
Kevin. Et oui, il est là, lui aussi. Il est en forme.
En très grande forme. Hein. Ah, il a dormi hier à la maison.
Ah, les petites infos sur Kevin Morand, vas-y. Voilà.
Il est allé faire le ménage du musée du Stade Rennais. Bon, ça a duré 5 minutes.
Entre-temps, il a bossé quand même. Voilà, c'est ça. Il a bossé quand même, Kevin. Il est dans le peloton, il pose les questions, il tend son micro. Et au sein du peloton, justement, Kevin, cette question de la sécurité, elle est centrale. Mais quand on demande qui est responsable, ben, les coureurs sont plutôt divisés. Hein.
Oui, après une nouvelle chute hier à l'approche de la bosse finale de Mur de Bretagne dans laquelle a été pris son coéquipier Wen Kostiou, le sprinter d'Arkea BNB Arnaud Démare pointe le comportement des coureurs.
On sait qu'une performance sur le tour, ça peut énormément changer la carrière d'un coureur. Il y a de moins en moins de respect. Moi, quand je suis passé pro, aller mettre mon guidon, toucher Cancellara, Boonen, c'était pas possible pour moi. Alors qu'aujourd'hui, peu importe ton statut, tu te fais bousculer. Donc ça aussi, ça a changé. Ouais.
Son homologue Michael Woods a eu un avis tranchant. Il a écrit cette semaine sur son blog: quoi qu'en dise ASO, ils adorent les accidents, le sang, les vélos cassés et un pauvre bougre qui se retrouve dans une ambulance. Le Canadien d'Israël Premier Tech met en avant la responsabilité de l'organisateur. Michael Woods à notre micro.
C'est l'organisateur qui doit faire les règles, qui va nous protéger. Je crois que ce n'est pas le cas. À mon avis, on a besoin de plusieurs choses qui diminuent la vitesse et qui nous protègent. Et j'espère qu'il va changer les règles dans les prochaines années.
Et le coureur de 38 ans propose donc des solutions comme réduire la taille du peloton à 120 coureurs avec des équipes limitées à 6 et sans formation invitée.
Et Kevin, que répond l'organisateur du Tour de France au sujet justement de cette nervosité et des chutes qui peuvent en découler ?
Eh bien, écoutez, Thierry Gouvenou, le directeur de course du Tour, et c'est lui qui a tracé justement ce parcours, fait d'étapes parfois piégeuses.
La nervosité, elle a toujours existé sur le Tour de France. Là, c'est un peu exacerbé avec les arrivées au sprint massif, mais il y a toujours eu des chutes. Je m'aperçois quand même que le matériel ne permet plus aux coureurs de faire la moindre faute. Et dès qu'ils font une petite erreur sur leur vélo, ils sont éjectés du vélo. Et ça, c'est un vrai problème de sécurité pour les années à venir.
Autre son de cloche du côté d'un manager d'équipe et ancien coureur, Cédric Vasseur, à la tête de Cofidis, pour qui les raisons sont à trouver de part et d'autre.
On envoie les coureurs sur des routes où on demande aux voitures de rouler à 30 km/h. Quand vous arrivez à 60 km/h, c'est compliqué. On a aussi des coureurs qui ont un engagement fou, parce qu'on sait que si on freine, c'est perdu. Et puis, je pense aussi, l'enjeu du Tour de France fait qu'on ne voit pas le danger.
Les instances tentent de trouver des solutions comme l'utilisation du VAR pour analyser les conduites dangereuses, combinées à l'instauration de cartons jaunes cette saison. Brian Coquart en a fait les frais après la chute de Philipsen. RMC a interrogé Laurent, qui est commissaire de l'UCI, sur ce dispositif.
On voit la chute, on capte les images, on transmet aux collègues sur la route. Les collègues sur la route donc, décident de l'orientation de la sanction. Le soir, le directeur sportif vient dans le car, on lui montre les images, on entend ses arguments. Et une fois que le directeur sportif se retire, nous, on prend notre décision.
L'Union Cycle Nationale va aussi expérimenter des limites de braquet sur le tour du Guangxi en Chine en fin de saison pour limiter la vitesse.
Merci beaucoup, Kevin. Tu vois, il bosse, Jérôme, Kevin, pour justement interroger tous les coureurs et les managers. Merci beaucoup, Kevin. Bon courage pour ta journée sur cette 8e étape du Tour de France. La question, donc, on l'a vu, hein, ça divise beaucoup au sein du peloton. Est-ce qu'il faut incriminer les coureurs, 32-16 d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le standard des GG. Pour toi, Jérôme, tu as dit oui, quand même, c'est de leur faute.
Ben oui, parce que je le rappelle, la règle de base sur une bicyclette, la manette à droite, c'est le frein arrière, le manette à gauche, c'est le frein avant. Et ça, ils sont pas interdits de s'en servir.
Déjà, j'ai
comme ça
ne
passe pas, faut freiner. Il y a deux choses, et il y a cette chose-là, c'est principal. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas répondre aveuglément et bêtement aux ordres donnés dans la voiture, et c'est eux les maîtres du jeu, c'est eux qui doivent savoir si ça passe ou ça passe pas. Déjà, c'est comme ça. Après, on met en avant l'organisateur, les routes. La plus bête chute, la plus idiote, et qui traduit parfaitement l'état d'esprit d'un peloton et l'importance du Tour de France, c'est quand même la première étape au Mont Cassel entre Benjamin Thomas et Matteo Verscher. Il n'y a pas de danger, ils font un sprint pour un point, parce qu'au bout de ce point, il y a un maillot à poids du Tour de France, et sur n'importe quelle autre course, on se serait arrangé et on n'aurait pas pris tant de risques, et là, ils sont tombés tous les deux. C'est dire si les coureurs sont emportés par l'enjeu du Tour de France. Les coureurs sont pris par cet enjeu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression folle. Quand j'entends, mais si, c'est de plus en plus important, Pascal, non, parce que
le Tour de France qui suscite l'engouement des coureurs, c'est depuis tous les temps que c'est comme ça.
Oui, mais se battre pour les moindres
points. Ça peut pas être un argument, je suis désolé. Non, mais.
Ouais, c'est Jérôme, un peu, je suis désolé. Tu caricatures un petit peu ce que vient de dire Jérôme.
Mais ce que veut dire Jérôme, c'est qu'ils se battent maintenant pour le moindre point, même un point qui
contre
un
Alors, c'est l'évolution de votre sport, c'est pas les coureurs.
Alors, Pascal, moi, j'ai été maillot à poids du Tour de France en 2006 puis en 2010. J'ai jamais fait des sprints au coude à coude, prêt à tomber avec le deuxième au classement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un sprint quand tu vois que t'es battu. Il y a pas. Moi, j'ai vu Benjamin Thomas faire une vague sur le sprint inter, le sprint pour le point. C'est jamais arrivé. C'est de pire en pire. Les chutes de Philipsen, c'est pas la fausse de Brian. Brian, il y est absolument pour rien. Coquin, on lui a mis un carton jaune. Je sais pas pourquoi. Il retombe après. C'est un sprint parce qu'il y a des vagues. Parce que ce sprint-là,
c'est un sprint intermédiaire,
à la grande époque des Cipollini et même après, McEwen, les autres, Peter Sagan, ça frottait pas autant. Aujourd'hui, le sprint inter, comme le parcours du Tour est très difficile, on se dit que peut-être Tadej Pogacar va gagner maillot vert. Donc sur chaque point, c'est quasiment une arrivée pour les sprinteurs. Parce qu'après, sur les arrivées à Mur de Bretagne ou à Vire, bah, il n'y a plus les points pour les sprinteurs. Donc, ils sprintent là. Donc, le sprint est très, très disputé. Et c'est pour ça aussi que maintenant, les sprints intermédiaires, c'est des véritables lignes d'arrivée. Il y a sprint à 5 bornes, sprint à 2 bornes, une flamme verte.
Bon, mais là, tu es en train d'expliquer que ça cause de l'organisation, alors, Jérôme.
Ah bah non, justement,
ils peuvent plus avoir de points, ils sont obligés de le faire maintenant. C'est donc c'est l'évolution et donc l'organisation fait en sorte que ça se passe comme ça.
Fred, ne fais pas la sieste l'après-midi au moment du sprint.
Mais quand je t'écoute, ça me donne pas envie de dormir. C'est vrai, mais là, ça devient intéressant.
Mais moi, j'ai une autre lecture que toi, Jérôme, parce que en fait, toi, t'es un vrai spécialiste et moi, je suis un vrai passionné de vélo. Donc je vais donner mon avis. L'avis, c'est que le sport évolue et le cycliste n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pelotons, c'est moins disparate que ça ne l'était il y a encore 20 ans de cela. Aujourd'hui, les coureurs, ils se tiennent
parce
tous.
Il y a plus de niveaux.
Il y a plus de niveaux, il y a plus d'enjeux. Et puis, un coureur qui se montre à son avantage peut changer sa vie. Peut gagner 10 fois ce qu'il gagnait au moment où il.
Mais c'est ce que dit très très bien Arnaud Démare. Arnaud Démare le dit très bien dans son interview.
Ceci fait qu'il y a ni foi ni loi certainement. Exactement. Donc la préparation,
donc c'est la faute des coureurs.
Le matériel. Non.
Ah donc c'est la faute des coureurs, Pascal.
Le matériel qui évolue, qui est de plus en plus performant. Les routes aussi, parce que aujourd'hui, bah t'as des îlots directionnels, t'as des ronds-points, t'as des dos d'âne, des chiens couchés, je ne sais plus que sais-je encore.
Mais et ça, puis il y a aussi, tracé,
et là encore une fois, ce que je te dis là, je te le dis très honnêtement, il y a aussi la préparation des coureurs. Ils me sentent tellement bien préparés que je me demande si ils ont toujours le discernement nécessaire.
Voilà, mais regarde hier la chute la plus préjudiciable du Tour de France pour le moment, avec l'absence de Philipsen qui était le grand favori du maillot vert. La chute aujourd'hui qui pour moi va peut-être faire un gros préjudice à l'équipe UAE, c'est celle d'hier. Pourquoi sa chute hier? Donnez-moi une explication. L'organisateur, la route ou les coureurs?
C'est dans une descente.
Les coureurs hier.
Tout droit, c'est.
C'est une descente, faux plat, la route est nickel. Ils sont plus que 35. Jérôme, moi j'ai une question,
ça peut pas être les directeurs sportifs qui mettent la pression tout le temps avec les oreillettes?
Non, parce qu'à ce moment-là. Alors,
non, mais je me pose la question. Mais on parle forcément. Je parle pas sur cette chute en partie, mais je parle en général. Cette pression incessante dans l'oreille d'un mec qui dit allez plus vite.
Et on le voit et on l'entend d'ailleurs, puisque le diffuseur diffuse les petits moments justement de ce qu'on entend dans les oreillettes. C'est toujours
insupportable.
Replace-toi. Mets-toi devant, sois bien placé, oui, etc., etc. C'est une pression constante.
Mais vous pensez il disait pas assez pour bouge-toi un peu le cul.
Après, il n'y avait pas d'oreillettes aussi à l'époque. Maintenant, il y a des oreillettes, donc on leur parle tout le temps.
Voilà un outil qui, pour moi, correspond à la réalité des faits. C'est-à-dire que on parle du matériel. On sait que l'UCI a mis un règlement en place pour que le guidon, le cintre, soit au moins large de 40 cm. Parce qu'on avait tendance à diminuer de plus en plus les cintres. Les cintres, c'est pour piloter le vélo quand même. Donc, plus le guidon est large, plus on arrive à manier. Mais ils sont en train de vouloir limiter les braquets, vouloir faire des pneus qui avancent moins vite. Mais arrêtons déjà les oreillettes. Déjà, si on arrête les oreillettes, quand on sait que la moitié des coureurs aujourd'hui sont téléguidés, si on arrête les oreillettes, certains coureurs vont devoir étudier la carte, mettre en place une stratégie et apprendre par cœur les endroits importants où il faut se placer. Parce qu'en ce moment, la consigne la plus donnée dans le peloton, c'est quasiment tous les 5 bornes. Les gars, il faut se replacer à l'avant, ça va être dangereux. Mais oui, mais c'est dangereux partout en ce moment.
Ça devient dangereux.
Donc, c'est bien l'évolution du sport et non les coureurs.
Et donc, seulement les coureurs, c'est aussi les directeurs sportifs, l'oreillette, etc.
Malgré tout, Biggie, le truc, c'est que c'est les coureurs qui pédalent et qui sont sur la selle et qui sont au volant de leur guidon.
Oui, mais donc ils sont mis sous pression sans arrêt. Je suis d'accord. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils sont blancs comme
Fredo. Fredo,
juste en train de dire qu'ils sont téléguidés.
Simon, après.
Le Tour de France, ça a toujours été la plus grande course du monde, mais je crois qu'on réalise mal l'ampleur qu'a pris cet événement ces dernières années. Gagner une étape du Tour de France n'a jamais été aussi valorisé et du coup aussi prisé par des coureurs qui sont, je parle sous le contrôle de Jérôme, de plus en plus nombreux, la densité du peloton, ils sont de plus en plus nombreux.
Trop d'équipes aussi.
Ils sont de plus en plus nombreux.
Ça, c'est pas aussi.
Ils sont de plus en plus nombreux, en fait, chaque jour, à pouvoir viser la victoire. Et ça, c'est parce que les organisateurs ont fait un boulot remarquable dans la réinvention du tracé. Je veux dire, il faut se souvenir qu'avant, on commençait par 8 étapes, on savait que ça arrivait au sprint, et en effet, la sieste, elle était inévitable. On avait les pales de l'hélico, on entendait vaguement le public, et on savait que ça allait jouer entre 3-4
quatre mecs. À l'arrivée, j'ai l'impression que ces dernières années, les sprints se préparent, commencent à se jouer à 10 km de l'arrivée, là où avant ça se jouait dans le dernier kilomètre. On avait vaguement un poisson pilote dans les grosses équipes, alors que maintenant, en effet, il y a quand même une énorme bagarre avec des trains ahurissants.
Ils sont très nombreux à sprinter.
Finalement, c'est un cercle vicieux parce que plus il y a de chutes, plus on essaye de courir devant. Donc plus on prend les risques de chuter pour remonter le peloton avec une nervosité qui a augmenté.
Mais donc ça cause des tracés.
Les vitesses moyennes,
c'est l'organisation qui s'en occupe des tracés.
Non, mais c'est le comportement.
Mais le tracé, si le tracé te permet de faire ça, c'est pour ça que les coureurs se mettent à faire ça. Donc il y a un problème de ça, de tracé, et il y a un problème de nombre de coureurs aussi.
Dit Michael Woods, hein. Il dit qu'il y a trop de coureurs aussi dans le peloton.
Mais ça, c'est une hérésie. Ça, c'est une bêtise phénoménale. Il y a 15 ans ou 10 ans,
quand j'ai commencé le vélo,
il y avait 20. Mais moi aussi, j'y ai été.
Oui,
22 équipes. 22 équipes à 9 coureurs.
Mais oui.
22 équipes à 9 coureurs. D'accord ? Ça fait moins de ça fait plus de coureurs que 23 équipes à 8 coureurs. Donc il faut arrêter avec ça. On va pas.
Devant parmi ces équipes-là, il y a plus de mecs qu'on retrouve à l'avant du peloton maintenant.
C'est parce que là, Pascal a raison, les coureurs sont mieux préparés. Il y a aussi quelque chose qui est un vrai phénomène. C'est pour ça que Michael Woods, il dit une grosse énerie. Parce qu'il dit, ouais, il faudrait être 120. Mais mec, s'il y a 120 mecs au départ, ça veut dire qu'il y a 4 équipes de moins dans le monde et que peut-être toi, tu vas être dans le peloton.
Woods,
mais tous
pas.
Tes collègues au départ avec toi, ils y seront pas. Il faut aussi savoir que c'est le Tour de France, il n'y a pas que ça, il y a toute l'année aussi. Et aujourd'hui, on est en train de perdre des équipes faute de moyens. Donc comment on peut expliquer aux équipes qui vont chercher 40 ou 30 patates que demain, on va diminuer les
coureurs? Mais c'est
pas possible.
Il dit, c'est le business qui met en danger les coureurs.
Parce que c'est un coureur qui a passé la trentaine et que lui, il arrive à la fin. Il pense à lui, il pense pas aux autres. Lui, Woods, il attend d'arriver au sommet en troisième semaine.
Il attend dans les bois.
Il
n'y
a plus d'enjeu et il n'y a pas besoin.
Très bien.
Il n'y a plus d'enjeu et donc il peut tirer son épingle du jeu. Mais le vélo et le Tour de France, ça a toujours été ça.
Bon.
Aujourd'hui, il y a une chose aussi, un phénomène qui monte, c'est le collectif. Dans le vélo, aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectifs soudés autour d'un ou deux leaders. Et on s'aperçoit que pour faire carrière, certains coureurs, comme Ricard l'autre fois, qui a été abominable avec Brian Coquart avant de s'excuser. Ricard, il doit sa carrière à Mathieu Van Der Poel. C'est-à-dire que lui, si Mathieu Van Der Poel est toujours copain, il adore son travail, il va faire carrière avec lui. S'il est seul sans Mathieu, Ricard, je ne suis pas sûr qu'il soit encore professionnel. Donc, il se met au service de Mathieu Van Der Poel et il prend tous les risques pour Mathieu Van Der Poel. Et il joue des épaules, il joue des coudes. Je pense qu'il est aussi là pour son physique. Et il y a beaucoup de coureurs comme ça dans le peloton qui rendent le peloton très dangereux. Et c'est ce que dit Arnaud Démare. Il n'y a plus ce respect-là parce qu'un équipier d'un leader, quel que soit le nom, est capable de venir mettre un coup de coude à Tadej Pogacar parce que lui, il bosse pour un autre. Et c'est aussi pour. Alors, ce n'est pas une manque de respect, c'est juste une génération qui change, un peloton qui évolue et qui est prêt à tout pour faire sa place. Exactement.
Alors, à 11h24, le débat continue avec Mathieu qui nous rejoint au 32-16, fan de vélo. Merci beaucoup, Mathieu. Salut.
Oui, salut, les grandes gueules. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les week-ends. Moi, je trouve ce débat super intéressant. Et en fait, je trouve que vous avez en fait répondu tout seul à la question. C'est-à-dire qu'on a évoqué tous les facteurs. On a évoqué le facteur organisation de la course et tracé, où effectivement, faut bien réfléchir quand on fait son tracé pour éviter tous les dangers possibles, comme on l'a vu à l'étoile de Bessèges cette année avec les bagnoles en contresens, ou même là sur le Tour de France, faire un sprint intermédiaire en centre-ville sur des pavés. Je trouve pas que ce soit forcément une très bonne idée. Donc il y a le facteur organisateur, où ils ont quand même leur part de responsabilité.
Alors Mathieu, le sprint intermédiaire où est tombé Philippe Sen, c'était absolument pas sur des pavés. Le sprint où sont tombés Thomas et Verscher,
oui, je parle
c'était
de celui
dans Moncassel en bosse.
Ouais,
mais c'est Moncassel en bosse, les mecs, ils sont deux, ils tombent. Je veux dire, là, c'est une erreur des deux coureurs.
Et donc, j'en viens à mon point suivant. Effectivement, il y a le problème aussi des coureurs, de leur comportement, quoi. Vous l'avez dit, en fait, il y a peut-être pas forcément un manque de respect, mais chacun veut tirer son épingle du jeu dans le peloton. Il y a peut-être moins de patrons qui sont à même de s'imposer dans le peloton pour faire respecter une sorte de hiérarchie.
Qu'est-ce qui manque à Lance Armstrong?
Voilà, un peu. Alors oui, on peut faire tous les reproches du monde à Lance Armstrong, mais mine de rien, ça avait au moins la possibilité de poser les choses en termes de hiérarchie dans le peloton. Et quand on voit hier.
On peut pas entendre ça.
Sujet glissant, Mathieu.
Oui, voilà. C'est pour ça que je vais pas m'étendre. Mais bon, notre
attention à la chute.
Hier, il tombe tout seul, comme un grand garçon. il met peut-être en péril le tour de Pogacar, et surtout, il fout en l'air toute l'équipe Bahreïn avec Buitrago qui tombe et son lieutenant qui tombe, et peut-être que les deux vont abandonner aujourd'hui dans les jours à venir. Donc en fait, oui, effectivement, il y a, bah, comme en Formule 1, hein, il y a des mecs derrière un volant, bah là, il y a des mecs sur un vélo. Et je trouve que effectivement les comportements à risque et le carton jaune, c'est une très bonne chose. Et si ça peut permettre de suspendre 10 jours un mec qui est dangereux dans le peloton, qui sait pas frotter, et ça va peut-être un peu calmer aussi les mentalités sur ce point-là. Quoi.
C'est vrai que tu soulignes, alors Mathieu, merci beaucoup, mais tu soulignes effectivement l'utilisation du carton jaune. On l'a vu notamment sur Brian Cocquart. Mais est-ce que ça peut réellement avoir un impact? Est-ce que c'est la solution pour calmer les coureurs? Jérôme, en un mot.
Ah ouais, moi je pense que c'est un bel outil à partir du moment où c'est bien utilisé par des gens compétents. Et la preuve en est, c'est que sur Brian Cocquart, c'est une honte. C'est tout le peloton l'a dit, la caravane du Tour et tout le peloton a dit. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Non mais Pascal, c'est comme les arbitres à la VAR, c'est-à-dire que quand tu peux te tromper, tu dis je me suis trompé, on vient en arrière. Et puis là, ça te rend humain, parce que sinon, c'est des commissaires, ils sont dans leur camtar, ils jugent un mec, il y a eu chute, on lui met un carton, puis le lendemain, tout le monde dit non, mais ils sont trompés. Même Philipsen a appelé Cocquart pour dire tu t'es pas trompé, t'as pas fait d'erreur. Ils sont restés là-dessus. Tu sais ce que c'est, Pascal, un carton jaune dans le Tour, c'est que s'il en prend un deuxième aujourd'hui, ça fait une vague. Voilà. À l'interprétation de ces messieurs qui n'ont jamais fait de vélo, il est exclu du Tour quand même.
Ah ouais, ouais.
C'est grave ce qui s'est passé.
Donc il n'y a pas de. Et d'ailleurs, il y a un très bon reportage à retrouver sur mcsport.fr sur justement ce camion VAR. Mais effectivement, il n'y a pas de coureurs professionnels ou d'anciens coureurs dans ce camion VAR, a priori.
Ah ouais.
C'est ça?
C'est à peu près.
Ah non, il n'y a pas d'ancien coureur, je te confirme. Il n'y a pas d'ancien coureur. Voilà. Et aujourd'hui,
Jérôme Pinault
va se passer pour Brian.
Il n'y a que des journalistes ou quoi?
Non, c'est des commissaires, c'est des arbitres, si tu veux.
C'est leur job. Tu fais des bières avec eux après les étapes, avec les commissaires ou non?
Tu sais bien que chez RMC, on ne boit pas de bière.
Déjà, oui.
Ah, pardon?
Attention, l'abus d'alcool est dangereux.
Non, mais franchement, c'est un peu humain. Et si tu veux, il y a un blessé. Alors grave, puisqu'il a perdu son maillot vert, et il a abandonné le Tour. Il y a un homme blessé, on l'a vu, il a les larmes aux yeux pour venir s'expliquer. Il est aussi tombé, c'est-à-dire qu'il est aussi victime d'un mouvement de course. Quand tout le peloton te dit, il n'y a pas eu faute, le principal incriminé et le principal victime sont d'accord, ils se tapent dans la main, ils s'appellent. Un peu d'humanité. Ouais, ouais. Les gars, on a lu le carton jaune, on s'est trompé. C'est le vélo, ça va. S'il y a des chutes, il y en aura toujours. Et tu peux faire tout ce que tu veux. L'illustration hier, c'est la chute, notamment d'Almeida. Mais si on revient un peu plus tôt dans la course, ils sont tombés au pied du mur de Bretagne. Ça, c'est quoi? C'est pas la route qui est pas large. C'est pas la dangerosité. C'est pas la vitesse. C'est le peloton, c'est les comportements, c'est le vélo, il y a des chutes et ce sera toujours comme ça.
Bon, Jérôme, on garde quand même sous la pédale hein, parce qu'on va avoir besoin de toi tout à l'heure pour le 8e étape.
Les gars, je suis au taquet.
Oui, mais t'es au taquet dès 11h28.
Calme-toi, c'est parfait. Jérôme, calme-toi.
Oui, vas-y, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais c'est une étape, Fred, Simon, vous allez pouvoir faire une grosse sieste.
Voilà,
à mon avis.
C'est ça. Ça va être la grosse sieste de Simon et de Fred, mais je crois qu'ils ont.
J'imagine.
Ils ont prévu ça au programme de leur après-midi.
Je crois que c'était prévu.
Merci beaucoup, Jérôme. Très heureux.
Merci à vous, les copains.
Merci beaucoup d'être venu. Et tu reviendras, bien sûr. On parlera Tour de France.
De rien, Biggie.
Encore une fois, aujourd'hui, dès 14h, intégral Tour. Et demain, dans les grandes gueules du sport, arrivé à Laval aujourd'hui pour cette étape du Tour de France. On revient dans un instant avec le dossier des GG sur cette nouvelle chaîne de la Ligue, ça s'appelle Ligue 1 Plus, c'est son nom, on connaît tous les détails pour s'abonner, objectif 1 million d'abonnés, est-ce que vous êtes prêts à vous abonner pour sauver le foot français? Venez nous le dire au 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet,
Fred Weiss, Simon Dutin, Pascal Duprat en pleine forme depuis 9h ce matin. Vous pourrez retrouver évidemment l'émission en podcast pour les leftards. Dans 15 minutes, il y aura le débat caché. Les GG ne savent rien, mais elles vont devoir débattre. Je suis sûr que vous n'avez aucune idée du débat, les
aucune.
Amis. Aucune, tant mieux. Donc du coup, on va ouvrir le dossier des GG. Alors on y va, c'est parti.
Le dossier des GG.
Le dossier, c'est sur Ligue 1 Plus, la chaîne de la Ligue qui a officiellement vu le jour cette semaine. Une chaîne pour voir 8 matchs sur 9 chaque week-end. Les patrons de cette chaîne visent les 1 million d'abonnés en un an, mais il va falloir faire face au piratage, convaincre les fans de foot qui se sont peut-être détournés de la Ligue 1 ces dernières années. Un pari risqué, mais capital pour le foot français en manque de liquidité. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les GG, à vous abonner pour sauver le foot français? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Fred Weiss.
Simon a dit oui. Non.
Pascal Duprat.
première partie de ta question, oui, je vais m'abonner.
Ah voilà, oui, pas forcément pareil, pour Pascal, sauver voilà. Le foot français, d'accord. Juste avant de vous entendre, on va développer tout ça bien sûr, et n'hésitez pas 32-16 pour nous rejoindre. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous abonner, auditeurs des Grandes Gueules du Sport? On va accueillir Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour les Grandes Gueules, salut, bonjour Morgane. À tous.
Salut. Tu étais cette semaine à la conférence de presse de présentation de Ligue 1 Plus. Comment il faudra faire pour s'abonner à cette chaîne?
Eh bien, ce sera très simple. C'est la promesse de Martin Oranche, l'un des directeurs de LFP Média.
Sur cette offre digitale, s'abonner au contenu Ligue 1 sera simple et rapide. Il suffira de créer votre compte, de valider l'offre que vous souhaitez sélectionner et de procéder aux formalités de paiement. En quelques minutes, vous accéderez à Ligue 1 Plus.
Ça, ce sera sur votre tablette ou votre ordinateur. Ligue 1 Plus est d'accord avec tous les opérateurs, SFR, Bouygues, Free, Orange, mais également DAZN qui proposera la chaîne, pas Canal+. Les communications sont coupées entre la LFP et la chaîne cryptée. Il faudra aller avec votre télécommande dans le menu Ligue 1 Plus sur votre box internet pour vous abonner. Le prix, 14,99€ par mois avec engagement pour deux écrans du même foyer, 19,99€ par mois sans engagement, et là aussi pour deux écrans à la maison. Sur tablette ou mobile, il faudra débourser 14,99€. Une offre moins de 26 ans à 9,99€ est en cours de création, mais elle pourrait ne pas être prête au démarrage de la saison à la mi-août. Sur la chaîne, les 8 matchs en direct à chaque journée et le 9e, celui de Bein Sport en différé, des magazines avant et après les rencontres, des documentaires sur le Paris FC et Dante, le joueur de Nice, Nicolas de Taverneau, le grand patron de Ligue 1 Plus.
Nous nous sommes donné un objectif, hein, c'est un objectif d'avoir 1 million d'abonnés à la fin de la saison. Hein. C'est un objectif, ça sera d'ailleurs pas des abonnés moyens puisqu'ils vont pas tous s'abonner le premier jour. Il faut se fixer un objectif très ambitieux, c'est un objectif très ambitieux.
Pour ses débuts, la chaîne diffusera gratuitement la rencontre Nantes-PSG le 17 août à 20h45 et son magazine, le début de l'opération Séduction.
Merci beaucoup Morgane, à bientôt sur RMC. Alors est-ce que vous êtes prêtes les GG à vous abonner pour sauver le foot français? 32-16 pour nous rejoindre. Pascal, tu as dit oui, tu vas t'abonner.
Oui, je vais m'abonner, mais après je n'ai pas de responsabilité à sauver le foot français. Je vais m'abonner parce que c'est le sport que j'aime, c'est le sport dans lequel j'ai bossé.
Mais tu penses pas quand même que c'est un geste militant, j'allais dire, des supporters de s'abonner pour...
Non, mais j'ai pas vocation à, comment dire, comme tous les abonnés, à réparer les erreurs des dirigeants du foot français, voilà. Notamment les dirigeants de l'LFP. Voilà, donc moi je dis simplement que si j'avais géré mon budget comme ils ont géré les droits télé, ça ferait un moment que mon banquier m'aurait mis une tarte dans la tronche et qu'il m'aurait dit va voir ailleurs. Tu comprends? Donc ça a un mérite d'être clair, il faut le dire. Cependant, ce que j'apprécie, c'est que déjà il y a une lisibilité quant au prix, quant aux tarifs, quant aux formules, alors que la saison n'a pas démarré, c'est nouveau par rapport à ces dernières années. Et aussi, on va retrouver des journalistes de qualité, et des journalistes que pour la plupart, j'apprécie beaucoup. Donc, et j'espère que les contenus seront différents, je dis bien, parce que meilleur, c'est pas dur, que ceux de DAZN, puisqu'ils étaient presque tous quasi nuls. Donc oui, je vais m'abonner, et je trouve que le prix, même si c'est pas neutre pour une famille...
Ah oui, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien, mais disons, bon, voilà, au moins on est prévu à l'avance. Il y a qu'un truc que je voulais dire aussi, c'est que, bon, je suis pas dans le secret des dieux, mais il est quand même dommage que le président de Canal, ou Maxime Saada, là, mon Dieu, il a, comment dire, la rancune tenace, quoi.
Ouais. Bon, après, ils mettent plus de 400 millions la Ligue des Champions aussi. Hein. Mais, c'est aussi des raisons économiques.
Oui, bien sûr, mais au moins qu'on puisse, pour ceux comme moi qui ont Canal, qu'on puisse obtenir la chaîne la Ligue LFP par le par Canal+. Bon, ça serait quand même facilitateur. C'est dommage qu'apparemment ils n'acceptent pas de proposer ce programme sur leur bouquet.
Et Pascal, voilà. Tu vas pas nous quitter pour Ligue 1 Plus, hein. Tu vas rester avec nous quand même.
Déjà, je suis pas approché. De toute façon, le football, en règle générale, ne m'a pas fait de cadeau. Hein. C'est à la force du poignet que j'y suis arrivé. Mais non, mais moi, je suis très bien à RMC. Après, c'est pas les heures que vous m'offrez qui m'empêchent d'aller bosser ailleurs. Donc, bon, voilà. Mais bon, encore une fois, je suis très bien avec vous. Passé. Pas de problème.
Fred, Fred, ben, non, tu ne t'abonnes pas tout de suite.
Non, je pense que je vais le voir chez des potes. Mais
tu vas le voir chez Pascal.
Chez Pascal, par exemple.
Bah oui, tu vas avec plaisir.
Avec grand plaisir. Mais non, parce que je ne paye pas pour voir.
Bienvenue.
Je paye pas pour voir parce que je sais pas comment ça va se passer. Les matchs, oui, c'est bien, mais je suis pas un féru de foot au point de dire c'est que les matchs qui vont me capter.
Alors, moi, précise, comme il y a encore un match au Bein, le total, si on veut voir toute la Ligue 1, c'est plus près des 40 euros
ouais, hein,
euros.
Mais c'est surtout que moi, c'est les magazines qui vont m'intéresser, c'est les reportages, c'est les émissions, c'est les débriefs. Et pour l'instant, moi, je paye pas pour voir parce que j'ai vu ce qui se passait sur DAZN, il se passait rien. Donc moi, ça me motive pas. Et ensuite, tu l'as expliqué, il y a un match sur Bein qui sera en différé sur ça. Donc moi je
suis pour un an pour l'instant.
Pour l'instant, moi je regarderai mon match sur Bein. Quand j'irai chez mes potes, je regarderai cette application et on verra ce que ça donne. Si c'était effectivement Pascal a raison, si c'était sur Canal, je pense que je me serais abonné plus facilement. Là, il y a plusieurs choses qui me font être un petit peu réticent. Je dis pas que au final j'y serai pas hein. Je dis simplement je paye pas pour voir, j'attends de voir ce que ça peut donner.
Simon.
Oh, moi, je vais m'abonner parce que j'adore ça, parce que j'arrive pas à m'en empêcher, que j'ai fini par m'abonner à DAZN et que je paye encore 20 euros par mois alors que la saison est terminée depuis belle lurette. Et ah, qu'ils ont eu l'élégance de ne pas, tu sais, faire cesser l'abonnement comme Prime le avait eu la courtoisie de le faire. Voilà, la saison est terminée. Bon, ben, votre abonnement se...
Il y a la Coupe du Monde des clubs, je crois, mais c'est gratuit.
Bah, c'est gratuit, voilà. Mais ouais, bon, gratuit. Il suffisait de créer un compte. Il n'y avait pas besoin d'être précédemment
elle est gratuite à 20 balles.
Donc voilà, moi, c'est ça. Moi, je fais partie des pimpins qui se sont fait avoir, qui payent 20 euros et qui avaient l'impression de faire une affaire puisque...
Il y a des rouges.
Ah ben voilà, Pascal, on est ensemble,
c'était
évidemment.
40 euros au départ.
Parce que c'était 40 au départ et on se disait, ah ben, c'est deux fois moins cher. Allez, on fonce. Donc, là, ce prix, il paraît un petit peu plus raisonnable. Voilà, 15 euros. Moi, j'invite les gens qui râlent, qui trouvent que c'est trop cher, mais qui pourtant aiment le foot. Bon, ben voilà, ceux qui vont aller boire deux pintes par mois dans un bar à Paris pour voir un match de Ligue 1, ils y seront à 15 euros, hein, le prix de l'abonnement. Donc, encore une fois, tout est question d'échelle. Là où je rejoins Pascal, c'est que c'est pas pour sauver le foot français. Il manquerait plus que ça, qu'on soit comptable des erreurs pendant au moins une décennie, des dirigeants du football français qui ont eu les yeux plus gros que le ventre, de la LFP, même combat. Alors, évidemment, on attend des nouveaux contenus, une nouvelle expérience pour le consommateur. On rappelle souvent que le public qu'il faut aller chercher, c'est un public soit qui s'est lassé des modes de consommation actuels, qui ne regarde plus un match de la première à la 90e minute, qui attend autre chose. Donc, il faut à ce titre-là que les clubs jouent le jeu. Et pour que les clubs jouent le jeu, il faut que eux-mêmes se mettent au clair avec,
il faut qu'ils jouent leur porte,
avec les joueurs. Avec les joueurs. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas une charte de la Ligue,
c'est ce qui semble être le cas.
Pour
moi, ça paraît incroyable que une ligue aussi importante n'est pas cette charte.
Tu signes dans un club de Ligue 1 et à la manière de ce qui se fait dans les sports américains.
Bien sûr.
Tu dois un temps à la presse chaque semaine. Tu n'y vas pas, c'est telle amende. Voilà, tu fais ton choix. Si tu refuses les caméras et qu'il y ait à nouveau des histoires à raconter, mais pour rien au monde.
On se moque quand même du monde. Donc Simon, finalement, t'es d'accord avec moi?
J'ai envie d'y croire parce que je vais le rappeler. Je pense que Nicolas Taverneau, c'est un mec qui connaît son métier, qui a vu l'évolution justement. Il a été à la tête d'un club de foot, il a été à la tête d'un grand groupe audiovisuel. Donc je pense qu'il réunit toutes les qualités. Ah bah oui, je paye pour voir. Évidemment.
Pour voir. J'attends de voir et après je paye.
Et puis en même temps, hop, petit CV glissé comme ça à Nicolas Taverneau, ça mange pas de pain, Simon Dutin.
J'attends le coup de fil encore, ouais. Voilà. J'attends le mail.
S'il nous écoute, voilà. Mickaël est avec nous au 32-16. Salut Mickaël.
Bonjour. Salut Mickaël. À toute l'équipe. Merci de me laisser la parole.
Avec plaisir, Mickaël.
En tant que supporter du TFC, je ne peux que remercier Monsieur Duprat pour nous avoir sauvés en 2016 avec un super coup franc de Yann Bolliger.
Yann Bolliger, bien sûr.
Merci,
oui.
Merci.
Voilà. Okay. Merci coach encore pour votre passage à Toulouse. Et oui, donc moi, en fait, je rejoins Simon et Pascal Duprat. Moi, je vais m'abonner. Oui, je vais m'abonner parce que l'année dernière, je ne m'y suis pas abonné. J'étais toujours abonné à la Ligue 1 avec Amazon Prime, avec Bein, Canal. Et l'année dernière, c'était une fumisterie. Donc je comprends que les gens aient pu aller sur des réseaux autres. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je suis passé à côté de la Ligue 1 complète l'année dernière. Donc, c'est suivre les résultats, suivre par RMC ou sur l'équipe, clairement. Mais là, cette année, voilà, exactement. Et je trouve que l'abonnement cette année, effectivement, est dans des prix, on va dire, un peu plus logiques, même si ça peut rester important, effectivement, si on rajoute Bein à côté. Mais 14,99€, c'est pas pour sauver le football français, je rejoins totalement Pascal et Simon là-dessus, mais pour retrouver du plaisir à regarder la Ligue 1.
Après, quand je dis sauver le football français, Mickaël, c'est pour ton club, Toulouse par exemple, pour lui donner les moyens aussi de continuer de recruter, se dire qu'il a besoin aussi de liquidité, etc. C'est ce geste-là aussi, en se disant, si on va vers le piratage, bah forcément, après, on ne peut pas se plaindre que les clubs français ne peuvent pas recruter.
Ah, je le comprends tout à fait. D'ailleurs, en plus, Toulouse, il change de direction, donc on verra ce que ça donne. Ouais. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais oui, moi, je vais m'abonner, oui, cette année.
Ok.
Oui.
Bah, écoute, Mickaël, merci beaucoup d'être passé. Petite précision aussi importante, une information importante, puisqu'évidemment, la lutte contre le piratage est un des enjeux de cette nouvelle chaîne Ligue 1 Plus. Eh bien, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage hier de l'accès à des sites pirates de streaming en direct et des services IPTV. C'est une première a priori. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des moyens de contourner ? Il y en a toujours sur Internet, mais en tout cas, du côté de la Ligue, on se félicitait de cette décision judiciaire. On revient dans un instant, vous restez avec nous dans les grandes gueules du sport, n'hésitez pas à nous dire si vous vous abonnez ou pas sur l'appli RMC onglet Direct Studio. C'est le débat caché dans un instant. Elles ne savent absolument rien au GG, donc ça va être une grande surprise pour elles. Vous revenez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Depuis 9h ce matin, ils sont en pleine forme. Vos GG du sport, Pascal Duprat, Simon Dutin, Fred Veil, ça retrouvait en podcast, bien sûr. Merci d'écouter RMC pendant vos vacances. Bon courage si vous travaillez. Bien sûr, on est encore ensemble pendant une bonne dizaine de minutes pour le débat caché. C'est parti.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre sur le guet-apens du jour, c'est ça.
Third match point for Billie Jean King.
Looks a little like Margaret Court now.
Let's watch Bobby Riggs. Three straight match. You watch Bobby, he'll behave like a perfect gentleman.
Ah, ça vous dit toujours rien là, hein?
Non.
Ils sont toujours dans le noir, complet.
C'est l'espagnol.
Non, est-ce que c'est pas l'époque où un homme avait choisi de défier des femmes en tennis?
Il est sur la bonne piste, Simon Dutin.
En mettant des dans ses poches ou en ayant droit qu'à un service, c'est ça?
Le joueur australien Nick Kyrgios, figurez-vous, a annoncé cette semaine dans une interview vouloir remettre à l'ordre du jour la fameuse bataille des sexes en affrontant la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Une rencontre entre un joueur et une joueuse de tennis qui rappelle évidemment l'affrontement il y a 52 ans, entre Billie Jean King et Bobby Riggs. La rencontre entre Kyrgios et Sabalenka aurait lieu en octobre prochain à Hong Kong, avec des règles aménagées, court plus petit, un seul service autorisé. Est-ce que vous trouvez ça excitant? Oui ou non? Fred Weiss?
Non, pas du tout.
Simon Dutin?
Alors, excitant, c'est pas le terme que j'aurais choisi, mais je
intéressant.
Intéressant, parce que je vais te dire pourquoi. Ouais.
Pascal Duprat?
Non, pas intéressant.
D'accord. Je rappelle juste pour les plus jeunes qu'en 73, Billie Jean King avait battu Bobby Riggs en 3 manches. Bobby Riggs, il était âgé de 55 ans. Il était déjà retraité à l'époque depuis 9 ans. Mais il disait publiquement que le tennis féminin, ça valait rien. C'était inférieur au tennis masculin. Il avait battu Margaret Court déjà quelques mois auparavant. Et il s'était proclamé champion du tennis féminin, voilà, un peu de façon provocatrice. Et Billie Jean King, qui était une des grandes joueuses de l'époque, a finalement accepté le défi de l'affronter et elle s'est imposée. C'était le 20 septembre 73 à Houston et c'est un match qui a donné lieu à un film sorti récemment là en 2017. Il y a eu d'autres matchs aussi de tennis entre hommes et femmes. Et toi Simon, donc t'es l'un des seuls à dire que c'est intéressant. Pourquoi tu trouves ça intéressant?
Non, alors intéressant, non, et c'est un sujet glissant sur lequel on peut facilement se faire épingler. Donc il faut faire très attention à...
C'était pas le but du tout.
Faut faire attention à ce qu'on dit. Autant à l'époque de Riggs et même à cette époque, il y en a d'autres, hein, tu l'as souligné, qui avaient tenté des expériences. Mais même des mecs un petit peu moins connus, mais qui jouaient avec un imperméable rempli de cailloux dans les poches. Il y en a un qui avait joué avec un chien en laisse sur un court de tennis. Bon, il y avait un côté très masculiniste, très misogyne, une volonté d'humilier le sexe féminin et de prouver que les mecs étaient de toute façon bien meilleurs. Ce débat, moi, il me rappelle une actualité que j'ai vue passer cette semaine. Il y a eu une expérience qui a été faite dans le football pour justement mesurer les différences physiologiques, biologiques qui existent entre les hommes et les femmes dans le football. Et donc il y a des hommes qui ont joué sur un terrain plus grand qu'un terrain de foot normal. Ils ont joué deux périodes de 56 minutes avec un ballon qui pèse 200 grammes de plus que le poids officiel d'un ballon taille 5. Bon, et tout ça pour constater qu'ils étaient absolument rincés à la fin de cette expérience, et c'était pour mettre en lumière justement les difficultés que peuvent avoir les femmes avec les mêmes conditions que leurs homologues footballeurs. Et je pense que à l'heure où tu sais, on a eu le débat sur France Télé qui récupère le match,
l'équipe de France féminine,
à l'heure où t'as l'impression que le sport féminin cogne parfois contre un plafond qu'on pensait pouvoir crever, dépasser un plafond d'engouement du grand public, un plafond de côté spectaculaire des matchs proposés. Je pense qu'il faut qu'on s'attaque à ce tabou-là. Voilà. Est-ce que
Est-ce que c'est en faisant justement des matchs?
Alors justement, je te dis juste qu'il faut enlever tout côté justement misogyne ou masculiniste de tout ça, mais je pense que la question mérite d'être posée. Alors Kyrgios, je connais pas ses intentions. On sait que il a eu.
Lui, il a joué 6 matchs seulement depuis plusieurs années. Il a été longtemps blessé. Hein, donc
oui,
mais
ce que je veux dire, c'est qu'il est, il est habitué des déclarations un petit peu tapageuses et un petit peu provocatrices. Mais je pense que la question mérite, en tout cas, d'être posé, et à ce titre-là, ces expériences-là méritent, voilà, d'être faites. Si des joueuses s'y prêtent de bonne grâce, je vois pas pourquoi on s'en
prive. Je vois pas ce que le sport féminin aurait gagné. On sait que physiologiquement, un homme, c'est plus fort physiquement. Et donc, admettons que Kyrgios s'impose très facilement et qu'il balaye son adversaire. C'est quoi l'intérêt pour le tennis féminin et le sport féminin en général? On va le pointer du doigt en disant « Ah bah oui, ils sont moins forts que les hommes ». Non, le sport féminin est magnifique, le sport masculin est magnifique. Chacun joue dans sa catégorie.
Il faut arrêter de comparer.
Et faut arrêter de comparer. Il faut surtout, c'est la seule chose qui puisse arriver, c'est que ça, si ça se passe mal, qu'on dénigre le sport féminin. Moi, c'est pas du tout mon objectif. J'ai envie que les femmes puissent montrer que c'est des athlètes exceptionnels, que les hommes puissent montrer que c'est des athlètes exceptionnels, et ne les comparons pas, et ne pointons pas du doigt le sport féminin sous prétexte que c'est les femmes qui jouent. C'est complètement ridicule. C'est juste pour mettre en avant, pour montrer, ah, les hommes sont plus forts, bravo. C'est
L'athlétisme, les femmes, elles courent le 100 mètres et les hommes courent le 110 mètres et. Je veux dire, il y a des sports où
il y a des aménagements.
Pourquoi tu veux pas d'aménagement?
Non, mais en fait, moi, je suis sur la ligne de Fred, parce que je pense que ça sert à rien, ça sert aucune cause. Voilà, ça sert à rien. Donc, tous les trucs.
C'est plus du business.
Ouais, et puis tu sais, je pense très sincèrement que hommes et femmes, on est fait pour jouer ensemble, pour être ensemble, pas pour être contre. Donc voilà, je vois pas pourquoi on nous opposerait l'espace d'une exhibition au tennis ou à quelque sport que ce soit. Et puis il y a aussi les compétitions mixtes, où là c'est pas le même truc, c'est bien ça.
C'est bien, voilà. Et ça se développe beaucoup. Là-dessus qu'on va terminer, sur ces mots de sagesse de Pascal Duprat. J'ai l'impression que c'est un sage, je le vois comme maître Yoda, Pascal Duprat, maître Yoda des grandes gueules du sport. On se retrouve tous les trois demain, vous êtes là à 9h les amis. Merci Simon, merci Fred,
merci
Pascal, à demain, vous avez été parfait. Merci. Et bien évidemment, merci, vous ne ratez pas le rendez-vous des grandes gueules du sport. Il y aura du foot, il y aura du tennis, il y aura aussi bien évidemment du Tour de France. Allez, tout de suite, les paris RMC avec la Dream Team, et justement au programme, qui va gagner la 8e étape du Tour de France aujourd'hui et qui va remporter la finale dames de Wimbledon.